إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله عز وجل قراءتنا لكتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب لا يؤذي جاره، باب لا يؤذي جاره. نعم، وصلنا إلى الحديث 20 و100. طيب، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت: نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت: قلت لها: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت: لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال: أدفئيني أدفئيني. فقلت له: إني حائض. فقال: وإن اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به. قالت: وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. نعم، نقصي بإذن الله عز وجل notre explication du livre الأدب المفرد de l'imam le chef des croyants de la hadith, l'imam al-Bukhari, رحمه الله تعالى. Il y en est encore donc sur le chapitre intitulé La yu'zi jarahu. La personne ne veut pas de mal, ne cause pas de tort à son voisin. Et on est arrivé donc au hadith numéro 120 où il dit l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Yazid nous a rapporté. Il a dit Abdurrahman ibn Ziyad nous a rapporté. Il a dit Umaratu ibn Ghurab nous a rapporté que sa tante, yani une de ses tantes, lui a raconté qu'elle a interrogé Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, en lui disant « Le mari de l'une d'entre nous désire sa femme, mais celle-ci se refuse à lui parce qu'elle est en colère ou est fatiguée, ou n'a pas envie. Y a-t-il un péché contre nous à cela ? Y a-t-il un péché contre nous à cela ?» Elle répondit « Oui, ceci fait partie de son droit sur toi. Tu ne dois pas l'en empêcher s'il te désire, même si tu es, yani, ici on traduit par épuisé. Mais ici, donc, le verbe c'est lem, wa anti ala, law aradaki, wa anti ala qatabin. Alors que tu es sur la selle d'un chameau. Vous voyez, donc il faut savoir que, avant les Arabes, ils avaient la croyance que la femme qui s'apprête à accoucher, ils croyaient que quand elle s'assied sur la selle des chameaux, cela facilitait l'accouchement. Donc là, en gros, Aïcha radiallahu anha, elle lui a dit, même si tu vas accoucher, yani, tu t'apprêtes à accoucher, que ton mari, yani, te désire, tu dois répondre favorablement. Bien sûr, c'est une hyperbole, c'est une exagération, pour dire que la femme, elle doit répondre à son mari, yani, quelle que soit la circonstance. Tant qu'elle n'a pas, bien sûr, d'excuses valables, légiférées religieusement parlant. Puis elle lui a dit, Qalat, elle demanda, et si l'une d'entre nous est en période de menstrues, et yani, son mari, c'est-à-dire le mari de cette femme-là qui est menstruée, n'a pas d'autre épouse, yani. Les zawjiha illa firash wahid aw lihaf wahid, ou alors il n'a qu'un seul lit et qu'une seule couche, yani, le seul endroit où il dort, c'est là où sa femme elle dort et elle a ses menstrues. Qu'est-ce qu'il fait? Jayid. Et là elle répondit, elle attache son pagne et elle dort avec lui. Et il a droit à tout ce qui est au-dessus. À tout ce qui est au-dessus, yani, du pagne. De plus, je vais t'informer de ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant une de mes nuits. Elle dit, j'ai réduit en poudre une sorte d'orge. Et j'en ai fait, yani, une boule. Il entra, sallallahu alayhi wa sallam, et ferma la porte. Puis, il alla à la mosquée. Ensuite, lorsqu'il désirait dormir, il fermait la porte. Puis elle dit, il fermait les gourdes. Le kerba, c'est les gourdes d'eau. Il les fermait, il les attachait. Il recouvrait ou il retournait les récipients. Il éteignait les lampes. Et je l'ai attendu, ou je l'attends, yani, qu'il se retourne afin de le nourrir de cette boule d'orge qu'elle avait faite. Mais il ne se retourna pas et le sommeil me terrassa. Elle s'endormit. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffri du froid. Il avait froid. Alors il vint vers moi et me réveilla. Il m'a dit, réchauffe-moi, réchauffe-moi. Je lui ai répondu, je suis en état de menstrue. Il, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, et alors, découvre ta cuisse. J'ai découvert ma cuisse et il déposa sa joue et sa tête sur ma cuisse, jusqu'à ce qu'il eût chaud. Donc il s'endormit comme ça. Puis une brebis domestique, ou un mouton, de notre voisine, entra, puis se dirigea vers la boule d'orge qu'elle avait faite. Et la bête, elle a pris la boule d'orge, hein, le pain qui était là, en or, d'orge, et il s'enfuit. Taïeb, elle continua, je m'inquiétais pour lui, et il se réveilla. Et je me précipitai alors à la porte, et là, elle s'est précipitée, c'est-à-dire elle est partie à la porte afin d'empêcher la bête de sortir avec le pain ou avec l'orge. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, prends ce qui reste de ta bouche, de ta boule, prends ce qui reste de ta boule d'orge et ne fais pas de tort à ta voisine pour sa brebis. Hein? Et ne fais pas du mal à ta voisine pour sa brebis. Vous voyez? Non. Et donc, هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف إسناده ضعيف donc ce hadith est faible ce hadith il faut savoir qu'il est faible car sa chaîne de transmission يعني, elle n'est pas forte elle comporte certains transmetteurs de hadith tels que Abdullah ibn Ziyad Al-Afriqi, qui est un transmetteur faible de hadith, ainsi que Umar ibn Ghurab, dont les hadiths ne sont pas valides et acceptés. Il y a également, on a une transmettrice de hadith qui se trouve entre Umar ibn Ghurab et Aïcha, qui est la tante de Umar, mais on ne sait pas c'est qui cette tante. On ne la connaît pas. Donc on ne peut pas émettre un jugement sur ce hadith. Donc ce hadith est faible, il n'est pas affirmé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas de mal à ce qu'on explique certains mots de ce hadith. Hein? Car certains pourraient se demander pourquoi expliquer des hadiths qui sont faibles. Eh bien, tout simplement, pour plusieurs raisons. Il se peut qu'il y ait divergence sur le hadith, sur son authenticité. Il se peut que certains savants l'aient authentifié. Deuxième raison, il se peut que le hadith soit faible, mais que le sens qui est à l'intérieur soit bon. Le hadith, il est faible, mais le sens qui est dedans, il est conforme à la charia. Il est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jayid? فَمَعَنِ الْكَلِمَاتِ أَوْكَأَ الْقِرْبَ أَيْشَدَّ الْأَسْقِيَ Donc on a dit tout à l'heure, hein, on l'a traduit déjà, mais lorsque elle dit à Aïcha أَوْكَأَ الْقِرْبَ donc lorsque il s'apprêtait à dormir, donc il fermait la porte et il serrait les gourdes d'eau. طيب القربة هي ظرف من جلد يستعمل لحفظ الماء ونحوه. القربة c'est quoi? C'est quelque chose qui est fait en peau et qui sert à conserver l'eau et autres liquides. طيب نعم القربة donc il fermait القربة أكفى القدح أكفى c'est قلب وكب القدح جمعه أقداح وهو إناء يشرب به الماء ونحوه. Puis qu'est-ce qu'il faisait également? Il retournait les récipients. القدح dont le pluriel est أقداح, c'est les récipients dans lesquels on boit, hein, etc. جيد. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il les retournait. القتب هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. Et on a vu tout à l'heure القتب c'est quoi? C'est la selle du chameau. C'est une selle qui est assez petite et qui est de la hauteur à peu près de la bosse du chameau. Allahu a'lam. أما قوله ها هنا في الحديث ضعيف أدفئيني أي أدفئيني بملاقاة البشرة وملامستها وإيصال الحرارة الحاصلة منها. Donc lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiallahu anha, adfi'ini, c'est-à-dire réchauffe-moi, réchauffe-moi. Comment se réchauffer? Eh bien, par le biais du contact des deux peaux. Vous voyez, du contact des deux peaux l'une contre l'autre, afin de parvenir à la chaleur dont il avait besoin, le prophète alayhi salatu wa salam. Jaïd. والداجنة هي الشاة التي يعلفها الناس في المنازل. Et donc la bête qui est entrée, donc c'est un mouton ou une brebis qui est entrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bête qui est dajina, c'est-à-dire que les gens donnent à manger et nourrissent chez eux dans les maisons. Naam. Tayyib. C'est pas une bête que l'on laisse dans la nature ou dans la prairie. الداجنة وهكذا قالت ما يؤخذ من هذا الحديث مع ضعفه أولا حث النساء على مطاوعة أزواجهن وإرضائهم ولو في حال المحيض فكيف بغيرها. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Premièrement, l'incitation vis-à-vis des femmes dans l'obéissance à leur époux, dans l'obéissance à leur époux, à leur mari, hein, notamment ici en l'occurrence, lorsqu'il les appelle, lorsqu'il les désire, Jayid, et donc l'incitation vis-à-vis des femmes également à satisfaire leurs demandes. Et même si elles sont en état de monstrue, il dit le cheikh, que dire alors si elles ne le sont pas, yani si elles sont en état de pureté. Naam. Thaniyan jawazu al-mubashara wa al-istidfa'i min al-ha'id. Deuxièmement, la permission d'être en contact, même yani contact de la peau ou de se réchauffer avec son épouse, même si elle est menstruée, même si elle est en état de menstrue. ثالثا الحث على الألفة والمودة والتعاون مع الجيران. Troisièmement, l'incitation à la sociabilité, à l'affection, l'amitié et l'entraide avec les voisins. جيد, hein, de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a voulu donc attraper la bête, il lui a dit: prends ce que tu dois récupérer de ce que tu as préparé, hein, de ta boule d'orge, prends ce qui reste de ta boule d'orge, mais ne fais pas de tort à ta voisine pour sa brebis. Ça y est, malgré ça, ne cause pas de tort à ta voisine par rapport à sa brebis. Ça y est, non. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. On passe donc au hadith suivant, numéro 121, du même chapitre. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, Sulayman ibn Dawood Abu Rabi' nous a rapporté, il a dit, Ismail ibn Ja'far nous a rapporté, il a dit, Al-Ala ibn Abdurrahman nous a rapporté, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. فهذا الحديث صحيح
أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. Donc ce hadith il est authentique, il a été également rapporté par l'imam Muslim dans l'authentique. معنى الكلمات بوائقة جمع بائقة وهي الغائلة أو الداهية. Donc on va expliquer certains termes de ce hadith rapporté donc par Abu Huraira radiallahu anhu. Bawa'iqa. Bawa'iqa, c'est le pluriel de ba'iqa. Et al-ba'iqa, c'est le mal, la nuisance, les préjudices. Voyez, il dit ici notre rapport au paradis, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses bawa'iqa, de son mal. Voyez, de ses nuisances. Wa qawluhu la yadkhulu al-jannah. La yadkhulu al-jannah. هذا النهي محمول على أولا من يستحل الإيذاء للجار مع علمه بتحريم الإيذاء فهذا يخلد في النار لاستحلاله. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم n'entrera pas au paradis. N'entrera pas au paradis. Donc cette interdiction, elle peut être interprétée de deux manières. La première, il dit les chers, ça concerne celui qui rend licite la nuisance à l'encontre du voisin. Bien qu'il sache qu'Allah il a interdit. Il sait qu'Allah il a interdit, mais lui, il le rend licite. Il dit peu importe, pour moi c'est licite. Hein? Celui qui a cette croyance-là et qui meurt sur ça, il va aller en enfer pour l'éternité. Parce qu'il a rendu licite, c'est qu'Allah il a rendu illicite. Jayib. Thaniyan, idha lam yakun mustahillan, fa yakun hadha jaza'uhu alla yadkhul al-janna waqta dukhul al-fa'iz. Idha futihat abwabuha lahum bal yu'akhkharu 'anhum. Deuxième explication, deuxième interprétation. La personne qui ne rend pas ça licite, il reconnaît que c'est interdit, jayid, mais il fait du mal à son voisin. Et il meurt sur ça. Il dit les chers, lui, il n'entrera pas au paradis avec les premiers qui vont y entrer. Lorsque les portes du paradis s'ouvriront, il ne pourra pas y entrer avec les premiers. Jayid, au contraire, il va rentrer après eux. Il se peut qu'il y entre donc après avoir passé un temps en enfer. Jayid? Naam. فمن مات على توحيد مصرا على الكبائر فهو الى مشيئة الله. إن شاء عذب ثم يخرجه من النار حتى يدخله الجنة وإن شاء عفا عنه. هذه هي قاعدة أهل السنة في من مات مصرا على المعصية دون الشرك. لأنه لا يخلد في النار من مات ومعه أهل ومعه عفوا أصل الإسلام التوحيد لا إله إلا الله. فنحن نفهم هذا الحديث في ضوء القواعد الشرعية العامة وهي قاعدة أهل السنة والجماعة حتى فيما يتعلق بالأحكام العملية لا فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بمسائل الخلود في النار وما شبهها فقط وإنما حتى في الأحكام العملية. Donc celui qui meurt sur التوحيد, sur le monothéisme, mais il est mort sur des péchés majeurs. جيد؟ Eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le veut, il le châtie. Puis, il y en a un enfer. Puis, il le sortira de l'enfer pour l'introduire au paradis. Et s'il le veut Allah subhanahu wa ta'ala, il l'absout. Il le pardonne. Hein? Donc, c'est la règle des gens de la sunna concernant celui qui meurt en étant continuellement sur un péché majeur qui n'atteint pas, bien sûr, le degré de shirk, qui n'a pas atteint le degré de shirk. Hein? Celui-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah jalla wa ala, s'il le châtie, Allah il le sortira par la suite, car il ne sera jamais éternellement en enfer, car il est mort, et avec lui, il avait la base de l'islam, qui est le monothéisme, qui est la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit comprendre ce hadith, yani, sous la lumière des règles et des normes légiférées de manière générale, et qui est la règle des gens de la sunna et du groupe sur la vérité, afin que l'on comprenne ces choses-là, et ces règles, on doit les appliquer même sur les choses qui concernent les pratiques, ou les œuvres, ou le comportement, comme ici on le voit. C'est pas hadith qui concerne la croyance à Allah, la croyance aux anges, la croyance aux messagers ou aux livres. Non, là ça concerne le fait de faire du mal à son voisin. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Taïeb, donc la règle que l'on applique sur les choses de la croyance, etc., on l'applique aussi ici dans le comportement, dans les actes vis-à-vis de son voisin, qui est que celui qui meurt sur le tawhid, même s'il meurt sur le fait d'avoir causé tort à son voisin, même si Allah Jalla wa Ala ne le fera pas entrer au paradis avec les premiers parmi les musulmans, eh bien, et qu'Allah il le châtie, un jour il en sortira, Allah le fera sortir de l'enfer, après l'avoir purifié, et le mettra donc au paradis après l'avoir purifié. Naam. Jayid. Tamam. Fa ahl sunna يجمعون النصوص الواردة في الأمر الواحد كلها ثم ينظرون في تلك النصوص من أجل فحص ما هو ثابت مما هو دخيل لم يثبت ثم ينظرون فيما ثبت ويؤلفون بينها على حسب قواعد أهل السنة من سلفنا الصالحين ثم بعد ذلك يكون الحكم فنحن هنا ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Donc les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font avant d'émettre un jugement? Ils réunissent les textes. Ils réunissent les textes. Voyez? Et ils font cela pour tous les sujets. Pour tous les sujets. Ils vont réunir d'abord tous les textes. Ensuite, ils vont regarder ces textes. Ils vont les examiner afin de vérifier si le texte il est confirmé, il est authentique, ou si c'est un texte qui est mensonger et qui a été introduit de manière frauduleuse parmi les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils sont faibles, ils ne sont pas confirmés. Donc après avoir fait la différence entre les hadiths faibles et les hadiths authentiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc regardez ceux qui sont authentiques, et là ils vont les réunir entre eux, conformément aux règles, encore une fois, qui ont été établies par Ahl Sunna, parmi les prédécesseurs, vertueux, pieux, et après cela, ils vont émettre un jugement. C'est très important. Tu ne peux pas prendre un hadith et le prendre à part, yani, à part, sans regarder tous les hadiths, tous les textes authentiques. Et puis tu vas émettre un jugement par rapport à un seul hadith. Ça, c'est pas permis. Tu peux pas le faire. Parce que les hadiths, ils se complètent les uns les autres. Les hadiths se complètent les uns les autres. Ils s'expliquent les uns les autres. Il y a certains hadiths qui peuvent aussi venir abroger d'autres hadiths. Vous voyez? Abroger. C'est-à-dire annuler le jugement des hadiths qui l'a précédé. Naam, alhamdulillah. Donc on doit d'abord vérifier les hadiths authentiques et les distinguer des faibles, puis on prend les authentiques, on les réunit tous, et après on émet, et après on pourra émettre un jugement. Non. Donc ici on regarde, on va analyser donc le hadith authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Notre rempart au paradis, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. »
لا يدخل هنا على سبيل التأبيد إذن فهو كافر لا يدخل هنا على سبيل التأبيد إذن هو كافر هذا مذهب الخوارج هذا مذهب الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة فهذه كبيرة من كبائر الإثم أن الرجل يؤذي جاره ويفعل الغائل والداهية لجاره ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة ولكن لو أنه فعل ذلك ومات غير تائب منه فماذا يكون مصيره في الآخرة.
Donc il se peut que la personne te dise, mais là le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhul, n'entrera pas au paradis. Il te dit, regarde, le hadith il est clair. Ça veut dire que celui qui fait du mal à son voisin et qui meurt sur ça, c'est un kafir. Mais lui il n'a pas compris justement. Il n'a pas compris la règle qui est de réunir tous les textes. De réunir tous les textes avant d'émettre un jugement. Parce que si tu fais ça, eh bien tu vas faire et tu vas t'égarer comme se sont égarés qui Al-Khawarij. Les extrémistes. Ceux qui rendent mécréants, hein, les musulmans, pour des péchés majeurs, n'atteignant pas le degré de shirk, de polythéisme. Ceux qui rendent mécréant celui qui boit de l'alcool. Ceux qui rendent mécréant celui qui fait du mal à son voisin, par exemple. Et là, ils vont te prendre pour preuve ce hadith. Mais ceux-là n'ont pas compris. Ou font semblant de ne pas comprendre. Donc, le fait de faire du mal à son voisin fait partie des péchés majeurs, sans aucun doute. Vous voyez, celui qui ne respecte pas les droits de son voisin, celui qui ne respecte même pas les liens, ni les liens de voisinage, ni les liens de sang, ni les engagements qu'il a pris envers ses voisins. Ça y est. Mais s'il fait cela donc, s'il fait du mal à son voisin et qu'il meurt dessus, sans s'être repenti, il va aller où dans l'au-delà? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller en enfer? Est-ce qu'il va aller au paradis?
فكمما اولا اما ان يخلد في النار في حال الاستحلال مع علمه بالتحريم فياتي من نصوص الوعيد على ايذاء الجار ما ياتيه ثم يستحل ايذاء الجار ويقول لا يلزمني في ذلك الشيء فهذا كافر فحينئذ يدخل النار خالدا فيها لكفره لا لايذائه لاستحلاله مع ما ورد من التحريم.
Donc la réponse, comme on l'a dit tout à l'heure, premièrement, soit c'est quelqu'un qui sera vraiment éternellement en enfer dans le cas où il a rendu licite cette chose. Alors qu'il sait que c'est interdit. Il te dit non, pour moi c'est permis. Taïeb. Donc on va lui citer les textes, tous les textes authentiques, hein, des menaces qui pèsent sur celui qui fait du mal à son voisin. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est halal. C'est permis. Voilà yalzimuni fi dhalika shay. Et rien parmi ces textes-là ne m'oblige à ne pas faire du mal à son voisin. A'oudhu billah. Ça c'est un kafir. Celui qui fait ça, qui dit ça, c'est un mécréant. Et par conséquent, s'il meurt dessus, il sera en enfer pour l'éternité. À cause de quoi? À cause de son kufr. Pas à cause du fait qu'il fasse du mal à son voisin. Mais à cause du fait de sa mécréance, le fait qu'il ait rendu licite, c'est qu'Allah a rendu illicite. Vous voyez? Tout même?
Non. Thaniyan, imma annahu yu'akhar. Fala yudkhalu jannata ma'a sabiqin alladhina yadkhuluna jannata idha futihat abwabuha. Wa innama yu'akharu anhum jaza'an wifaqa. لإيذائه جاره لأن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة Et deuxième donc interprétation, deuxième réponse possible, eh bien c'est le fait qu'il n'entrera pas au paradis avec les premiers qui vont y entrer. Ça y est, lorsque les portes du paradis s'ouvriront, on ne pourra pas, ou il ne pourra pas entrer avec les premiers. Et donc, on va retarder son entrée au paradis comme punition exemplaire et comme châtiment, yani, en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il faisait à son voisin. Ça y est. Pourquoi? Parce que celui qui meurt sur le monothéisme, bien qu'il ait fait des péchés majeurs, eh bien, on a dit, il est sous la volonté, il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut, il l'absout. Et si Allah il veut, il le châtie, puis il le fera entrer dans son paradis. فما يؤخذ من الحديث أولا الحث على كف الأذى عن الجيران. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Premièrement, l'incitation à ne faire aucun mal à ses voisins. ثانيا بيان أن كف الأذى عن الجيران من كمال الإيمان وأنه سبب لدخول الجنة لدخول جنة الرحمن الرحيم. Deuxièmement, l'exposer que le fait de se retenir et de ne pas faire du tort à ses voisins fait partie de la perfection de la foi, fait partie de la plénitude de la foi, et que ceci est une cause d'entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله ورحمه في هذا الحديث الموجز وعيد شديد لمن لا يحسن الى جاره بل يؤذي بشروره التي لا يجوز لأحد أن يطلقها على جاره ولو كان كافرا. البوائق جمع بائقة كما قلنا، وهي الشرور والأذى. فإذا كان جارك لا يأمن من أذاك فقد وقعت في هذا المحظور واستحققت هذا الوعيد الموضح في منطوق الحديث. وإذا كان جارك آمنا أذاك لا يتأذى منك ولا يخاف منك فأبشر أبشر بأجر الإحسان وكف الأذى من الله. Et pour finir, inshallah ta'ala, il dit le Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala, dans ce hadith qui est court, qui est concis, inshallah, on a une menace grande à l'encontre de celui qui n'est pas bienfaisant envers son voisin. Pire, qui fait du mal à son voisin. Vous voyez? Qui cause des torts dont il est interdit à qui que ce soit de causer à son voisin. Même si c'est un voisin qui n'est pas musulman. Même si c'est un voisin kafir. Donc on a dit, al-bawa'iq, hein, c'est le pluriel de ba'iqa. C'est-à-dire les préjudices, les torts, les nuisances. Donc sache que si ton voisin, il n'est pas à l'abri de ton mal, eh bien tu tomberas dans cette interdiction, cette menace, et tu mériteras donc ce châtiment clarifié dans ce hadith explicite. Par contre, si ton voisin, il est à l'abri de ton mal, alhamdulillah, et il ne subit aucun préjudice de ta part, il ne ressent aucune peur vis-à-vis de toi, il sait que tu ne peux pas lui faire de mal, il te fait confiance, alhamdulillah, il sait que même s'il laisse la porte ouverte, yani, tu ne vas pas rentrer chez lui pour voler quoi que ce soit. Jayid, il dit les chefs, eh bien alors réjouis-toi. Si tu es comme ça, si ton voisin, il ne craint rien par rapport à toi, réjouis-toi, hein, par rapport à la récompense qui t'attend, la récompense de ta bienfaisance envers ton voisin, et réjouis-toi également par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera aucun mal également. Ne te châtiera pas de par son châtiment, car tu n'as pas fait du tort ou du mal à tes voisins.
فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أصحاب الجنة ومن أصحاب من يأمن جارهم من بوائقهم. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.